France Musique.
En France, un intellectuel mélomane capable de causer de Berg autant que de Kempf est déjà une chose rare. Mais un penseur qui joue de la musique et pendant 30 ans de sa vie au moins trouve le temps de s'adonner à cette chose merveilleuse qu'est la pratique amateur, ça, c'est carrément unique. Aujourd'hui, cinquième volet de notre série Alain Badiou, philosophe et mélomane, jouez. Ouverture de Così fan tutte de Mozart, dirigée par Herbert von Karajan avec le Philharmonia, c'était en juillet 1954, exactement l'époque à laquelle le jeune Alain Badiou, dans l'orchestre de son lycée, jouait aussi l'ouverture de Così fan tutte. Bonjour Alain.
Bonjour.
Je ne me trompe pas, c'était bien cette période-là, hein, juste.
Oui,
hein.
C'est un tout petit peu avant tout de même.
Ouais, hein. Ouais.
C'est un tout petit peu avant. Vous me rajeunissez quelque peu, mais je ne peux pas vous en vouloir.
L'orchestre du lycée, vous y avez participé longtemps, beaucoup ?
C'est-à-dire que c'est un professeur de musique du lycée, naturellement, qui à un moment donné a pris l'initiative de créer un orchestre dans le lycée, après avoir, par sondage, vu qu'on pouvait trouver tout de même un certain nombre de jeunes qui étudiaient le violon, qui la flûte, qui la clarinette, etc., etc., et qui a entrepris de nous faire répéter en vue de deux principales manifestations. D'une part, un ou deux concerts donnés dans le lycée, finalement avec un public particulier, c'était quand même comme un concert que nous donnions, ouais. Quoi. Et puis aussi les cérémonies latérales, comme par exemple la communion solennelle qui avait lieu dans l'église des Jacobins, un édifice magnifique, et dans laquelle nous jouions, nous ponctuions en quelque sorte les cérémonies. Donc on avait à la fois des longues périodes de répétition et quelques interventions publiques orchestrales, et je dois dire que j'ai trouvé ça littéralement passionnant, alors vraiment. Je me suis dit, au fond, la place de la flûte est en partie quand même d'être un instrument d'orchestre. Elle a été sollicitée à certaines époques autrement. En réalité, principalement à l'époque baroque, puis à l'époque contemporaine. On pourra revenir sur ce point, oui. D'ailleurs. Mais quand même, sa vocation véritable, c'est d'incarner en quelque sorte l'aigu suave de l'orchestre, enfin, le piquant de l'aigu, comme ça. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Alors, c'était assez compliqué, parce que, par exemple, quand nous avons joué, en effet, l'ouverture de Così fan tutte dans un concert, les répétitions étaient difficiles, parce que, malgré tout, nous étions tous maladroits, il faut dire ce qui est. Et déjà, pour composer l'orchestre, c'était assez compliqué, parce que on manquait de violons, donc il y avait le recours à doubler les violons par les clarinettes, mais alors à ce moment-là, les solos de clarinettes étaient un peu décalés. Et puis surtout, on n'arrivait pas à jouer assez vite, quoi. Ouais. Je connaissais très bien cet opéra, et je lui ai plusieurs fois dit au chef d'orchestre, je lui ai dit, c'est quand même une pièce qui doit donner un véritable élan, quand même. C'est une pièce prestissimo, vraiment. Alors pour nous, là, il fallait voir, c'était quand même un peu toujours la panique. Pour jouer très vite et ensemble, c'était tout de même un peu un problème. Enfin, on s'amusait beaucoup, finalement, et on y arrivait, tant bien que mal, voilà. Et quand on a joué des choses un peu plus modérées, un peu plus concentrées, comme justement une suite de Bach, notamment la sarabande de la suite en question, là c'était autre chose, c'était, on avait le temps, le travail sur la sonorité, le travail sur écouter ce que jouent les autres au moment où on joue soi-même. Au fond, si j'avais pu, j'aurais continué, mais je n'en ai plus retrouvé l'occasion. On pourra en parler tout à l'heure, avant le service militaire, où je participais quand même à la fanfare, et non seulement à la fanfare, mais aux concerts que nous donnions dans les kiosques des parcs de différentes villes.
Ouais, on y reviendra tout à l'heure avec vous, Alain Badiou. Juste cette idée que vous venez de suggérer là, le fait de jouer ensemble, c'est pas simplement jouer ensemble, être ensemble, faire une sorte de cause commune, c'est aussi s'entendre, s'écouter les uns les autres.
Absolument, et c'est tout à fait passionnant. Surtout là, si on prend cette ouverture de Mozart, il y a des thèmes répétitifs qui passent de façon délibérée d'un étage à un autre. Ouais. On peut avoir les violons, puis les clarinettes, puis la flûte, qui généralement vient en dernier, parce qu'elle est comme l'écho de type oiseau, elle est comme l'oiseau de l'orchestre. Et donc, il faut être à la fois prêt du point de vue de la discipline rythmique et de l'être ensemble organisé, mais aussi être attentif à comment l'autre l'a joué, enfin instinctivement comme ça, et de se mouler un peu dans ce qui a déjà eu lieu avant et ce que vous avez entendu, et ne pas perdre de vue tout de même le professeur chef d'orchestre, là, parce que c'était lui, le professeur de musique, qui faisait chef d'orchestre. Je pense qu'il était aussi un petit peu débutant dans la profession. Là. Et il nous donnait des indications comme ça, très, tout à fait intéressantes, tout à fait pertinentes. Et tout ça constitue, je pense, un... Alors, vous savez, on parle très souvent de l'être ensemble. L'être ensemble, c'est une expression qui...
C'est pas un lieu commun, quoi.
Voilà, c'est un lieu commun, puis c'est une expression qui, au départ, vient de Hannah Arendt, qui en avait fait un usage très, très fort. Et l'orchestre, c'est une école de l'être ensemble, quand même. avec tous les risques que ça comporte quand ça s'y instaure des situations de rivalité. Mon professeur de flûte m'avait raconté des histoires dramatiques là-dessus. Je la raconte parce que ça donne aussi une touche sur ce que c'est que l'orchestre. Il était le premier flûtiste de l'orchestre de Toulouse et il vieillissait. Il commençait à avoir des difficultés dans les morceaux réellement découverts et difficiles. Et il devait jouer le lever du jour de Daphnis et Chloé de Ravel. Et il se penche vers son voisin, la deuxième flûte, un jeune gaillard qui avait eu le prix de Genève d'ailleurs un peu de temps avant, donc était doué et qui piaffait d'impatience de passer du rang de second au rang de premier. Et il lui dit, écoute, est-ce que exceptionnellement tu peux pas le faire? Et l'autre lui a dit, absolument implacable, je le fais, mais je suis première flûte tout de suite après.
Voilà. C'est dur l'orchestre.
Ça c'est l'être ensemble sous sa forme où il faut aussi payer le prix quand on est ensemble.
Rivalité et compétition.
Mais l'orchestre quand même, finalement, dans nous autres là, les amateurs qui étaient rassemblés, on était quand même dans une atmosphère chaleureuse, enthousiaste, on savait aussi que c'était pas formidable, donc on se soutenait les uns les autres. Et c'est resté pour moi une expérience tout à fait inoubliable.
La sarabande de la deuxième suite de Bach, le Concertus Musicus de Vienne, dirigé par Nicolaus Hardencourt en 1966, une pièce que vous avez donc jouée dans cette adolescence lycéenne. Alain Badiou, mais attendez, l'extrait que vous m'avez choisi là, vous étiez carrément soliste. Enfin, c'est pas vous qu'on entendait bien sûr dans cette version, hein. Vous n'avez pas joué à la baroque avec Hardencourt, mais vous avez joué cette pièce-là en tout cas.
Oui, j'ai joué cette pièce-là et j'étais assez fier de la jouer parce que évidemment la flûte a dans cette sarabande un rôle important. On ne jouait heureusement que la sarabande. Parce que le mouvement qui suit, la flûte reste soliste, mais c'est une autre paire de manches. Oui. Hein. Un passage que j'ai beaucoup travaillé aussi d'ailleurs, mais j'aurais été très intimidé de le jouer au public dans ces circonstances-là. C'était vraiment un élément festif, on l'a joué au moment de la communion solennelle du lycée, je l'ai dit. Alors, cette sarabande était l'accompagnement de l'entrée d'un flot de jeunes filles en blanc, comme ça, qui traversaient l'allée centrale de l'église. Et c'était vraiment des cérémonies d'époque, comme ça, tout à fait émouvantes. Et mon professeur de philosophie, j'étais en Dipocagne à ce moment-là, enfin en préparatoire, professeur de philosophie qui était un catholique intégriste convaincu, avec qui j'avais des querelles sur ce plan, parce que moi j'étais sartrien, donc on se disputait en classe, était là évidemment à cette cérémonie en tant que chrétien, et m'a dit d'un ton un peu bougonnant, c'est tout de même un peu étonnant que ce soit un sartrien qui fasse la musique d'une communion solennelle. Et c'est un des souvenirs de cet épisode. Il y avait là aussi une grande joie, malgré tout, une grande, bon, cette pièce est une pièce qui prend son temps, qui a une espèce, en effet, de solennité, avec une phrase qui revient, un peu comme un flot, comme ça, doux, et la jouer, l'entendre dans la résonance de l'espace, c'était quand même quelque chose de tout à fait... C'est là aussi un très grand souvenir de mon rapport à la flûte.
On a parlé il y a un instant, à la Badiou, on pourrait dire du côté presque psychosocial de l'orchestre, de ce qui fait aux gens qui participent. Et aussi autre chose, quand on est dans l'orchestre, je dis bien pas seulement quand on le regarde, c'est la question politique, la question du collectif comme... on va dire métaphore du politique. Et on dit souvent que l'orchestre est quelque chose comme ça. C'est une micro-société où peuvent s'expérimenter d'une certaine manière, sous un mode un petit peu atténué, des organisations de type, en tout cas, politique. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça aussi?
Oui, oui, on l'a ressenti nécessairement comme ça. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que vous êtes obligé de penser que ce que vous faites là... même et surtout si vous êtes soliste, en réalité, et dans une dépendance rigoureuse de ce que font les autres, et que vous devez à la fois les écouter, faire attention à être réellement dans le même rythme, ne pas vous décoller par votre sonorité un peu trop affirmée de la tonalité générale. Là, nous avions le problème que nous disposions tout de même de peu de violons, hein, et donc il fallait pas non plus instaurer un déséquilibre complet entre la basse et les violons, et puis le solo de flûte. C'est en effet un apprentissage de la collectivité, de la discipline collective. Ce qu'on remarque, c'est que, sauf exceptions qui se sont répandues un peu dans la période récente, il y a un chef tout de même. Oui. Voilà. C'est une collectivité commandée. Ouais. Alors, finalement, dans le débat entre démocratie et dictature, l'orchestre intervient, je pense, dans une fonction médiatrice. C'est-à-dire, c'est un chef, mais ce n'est pas un dictateur, justement. Il ne peut pas l'être, parce que s'il l'est, il va brouiller, forcer, violenter l'organisation générale de l'orchestre, malgré tout. Il faut que le chef soit quand même, à minima, admiré en partie par ceux qui sont là. Voilà.
Et au fond, peut-être pas choisi par eux, mais au moins suffisamment admiré pour pouvoir accepter
exactement,
ça.
Exactement, qu'il n'a pas été choisi par eux, mais ils peuvent accepter quand même la légitimité de cette désignation. Donc ça, c'est des leçons politiques assez complexes, finalement.
Oui, c'est pas simple, en fait. On peut pas faire la translation de l'orchestre.
Non, non, pas directement. Mais on peut en tirer toutes sortes de leçons, y compris justement sur le rapport entre le collectif et la singularité. Qui est soliste, alors l'histoire de la rivalité que j'ai racontée tout à l'heure, qui est soliste, qui ne l'est pas, qui est premier violon, il y a quand même des hiérarchies aussi très strictes dans un orchestre. Et puis la présence du chef d'orchestre, bien nommé chef quand même, qui pose une question au fond de nature politique. Et d'ailleurs on le sait, puisque le rapport de l'orchestre au chef est toujours un problème, avec beaucoup de solutions différentes, avec des chefs acceptés, bien qu'ils soient coléreux et autoritaires, des chefs qui sont moins bien acceptés alors qu'ils sont plus gentils, plus sympathiques. La reconnaissance de la compétence du chef par l'orchestre est un point tout à fait vital. Et en vérité, ça se termine toujours que ça marche si en réalité, côté, d'une part, en effet, l'orchestre est capable d'une prestation collective forte, etc. Mais en définitive, je pense, si finalement, il partage l'admiration du public pour le chef.
Jean-Sébastien Bach, l'allemande de la partita BWV 1013 par Bartold Kuyken sur son traverso. Vous avez joué cette pièce, Alain Badiou aussi, hein?
Oui, je l'ai non seulement joué, mais je l'ai, je dirais, travaillé, révisé, rejoué pendant toute ma... si j'ose parler ça de ma carrière de flûtiste. C'était un peu une, comme un, quelque chose à quoi je revenais, comme une espèce de socle comme ça, de l'exercice de la flûte. C'est une pièce qui n'est pas facile parce que les écarts, les sauts sont assez grands. Par ailleurs, elle est tout de même d'un mouvement assez calme, donc elle n'est pas non plus une pièce de virtuose. Donc c'est une pièce sur laquelle on peut s'exercer comme pour faire des gammes, mais de façon plus intéressante après tout que les gammes qui sont tout de même très ennuyeuses, il faut bien dire. Donc je l'ai beaucoup joué et... En fin de compte, il est caractéristique que ça soit une pièce de cette époque-là, Bach et après. Car il y a une chose remarquable, c'est l'histoire de la flûte, c'est que elle a eu deux grands moments, vraiment, deux grandes audiences auprès des créateurs de la musique, l'âge baroque au sens large d'un côté et le contemporain d'un autre. Il faut reconnaître qu'entre les deux, elle a été assez mal lotie. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Les romantiques n'aimaient pas la flûte. Mozart déjà déclarait ouvertement qu'il ne l'aimait pas. Il préférait en réalité la clarinette et le cor. Le cor a connu une fortune romantique considérable. Mes rivaux des instruments avant l'ont emporté sous le romantisme. Et le problème pour qui, comme moi, est un amateur, c'est que les pièces contemporaines sont en général tout de même redoutables. Et même, quelquefois, on en demande à la flûte des choses extrêmement difficiles. C'est-à-dire que les pièces de Bach, à la fois la partita, les sonates, pour flûte et clavecin, et puis beaucoup d'autres pièces de l'époque baroque sont tout de même jouables, à peu près.
J'étais un peu dur avec vous, là, sur les deux derniers extraits, l'Abadiou. Je vous ai imposé de grands musiciens, mais des baroqueux. C'est comme ça le terme consacré, hein. Or, je crois avoir lu quelque part quelques petites notations dans certains de vos livres, en passant certaines réserves sur le mouvement baroque, pas sur la musique, bien évidemment, mais sur ce mouvement de restitution.
Oui, c'est-à-dire, j'ai trouvé que, comme tout mouvement de ce genre a un peu le droit de le faire pour s'imposer, mais il y avait finalement une dogmatique baroque qui s'était installée et qui laissait entendre que, en définitive, la musique baroque était plus essentielle, plus décisive que l'âge classique ressassé, et que il y avait là tout un terrain de découverte absolument magnifique. Alors, il y a de très grandes œuvres baroques, évidemment, à commencer par celles qu'on vient d'entendre, mais j'ai trouvé que tout de même, cette dogmatique baroque n'était pas vraiment fondée à mes yeux. D'ailleurs, dans l'histoire de la musique, cet âge-là est un âge de constitution, d'exploration, d'invention, très reconnaissable dans son coloris aussi. Très bien, voilà. Mais je pense pas qu'il soit nécessaire de faire une propagande acharnée pour le baroque en tant que tel, en l'isolant en quelque sorte comme dans un réflexe qui me paraît un peu primitiviste d'une certaine manière. C'est l'idée que l'origine est toujours essentielle. Et cette thèse que l'origine est toujours essentielle, j'ai affaire à elle en philosophie sous des formes un tout petit peu aride tout de même. C'est un des grands thèmes, malgré tout, de Heidegger, cette idée que c'est à l'origine que se tient toujours le secret des choses. Alors quand on me dit c'est dans l'âge baroque que se tient le secret de la musique occidentale, je suis pas prêt à répondre. Je dirais oui, bien sûr, c'est aussi à l'âge grec que se situe l'origine du théâtre tragique, bien sûr, on peut reconnaître cela. Mais entre cela et introduire sournoisement un culte de l'origine, il y a quelque chose auquel je résiste. Voilà. Et quand ça prend la tour aussi d'un historicisme pointilleux, je ne suis pas complètement d'accord. Alors là, on retombe sur la question de l'être et de l'existence. Bon, la musique baroque, elle nous est léguée par un certain nombre de textes, dont on sait d'ailleurs qu'ils sont souvent assez approximatifs par rapport à ce qui se faisait réellement, parce qu'il y avait une part d'improvisation quasiment comme dans le jazz, pas dans le baroque. Le baroque, c'était le jazz de l'époque. Ça d'un côté, et puis de l'autre, il y a aussi une dogmatique des instruments anciens, de la flûte qui n'est pas la flûte de Böhm moderne, des instruments avant anciens, etc. Et au fond, pourquoi serait-il absolument nécessaire que les partitions soient jouées dans les instruments d'époque? On peut discuter ce point. La vie d'une partition, c'est aussi de traverser les siècles, y compris de supporter des interprétations non prévues, si je puis dire, par l'auteur. Je suis plutôt pour la vie d'une partition dans le temps, en tant qu'elle est capable de ressusciter, en quelque sorte, dans un autre temps, avec peut-être, en effet, d'autres sonorités, d'autres accents que l'auteur n'avait pas prévus, mais tant pis pour lui, voilà. L'œuvre est, en un certain sens, plus importante que lui, et un des aspects du fait que l'œuvre est plus importante que lui, c'est qu'elle subit des métamorphoses dans sa manière d'être jouée, dans sa manière d'exister, et que le pauvre mort n'y peut rien, ça c'est vrai. Mais je ne crois pas que ce soit un argument que de pousser le culte du musicien mort jusqu'à l'idée que la chose doit être jouée exactement comme il l'entendait de son vivant. Je pense que c'est un argument assez faible.
Alain Badiou, philosophe et mélomane, Lionel Esparza, France Musique.
Et on va faire un bond dans le temps, Alain Badiou. Il sera toujours question de flûte dans ce qui suit.
Thank you.
un extrait du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, dirigé par Manuel Rosenthal avec l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, il y a bien des années de cela. Alain Badiou, il se trouve que vous avez joué cette pièce, vous, pas avec l'orchestre, hein, avec piano.
Absolument, j'ai joué la réduction pour piano et flûte, ouais, de l'après-midi d'un faune. Et c'était pour moi comme une espèce d'exigence, parce que j'avais toujours trouvé l'intervention de la flûte, et j'adore cette pièce, l'après-midi faune. En plus, je suis un grand connaisseur de la poésie qu'il y a derrière, la poésie de Mallarmé. Mmh. Et j'étais très heureux qu'il existe des transcriptions pour flûte et piano. La difficulté, d'ailleurs, dans ce cas plutôt du côté du pianiste, parce qu'il a quand même à faire à forte partie, hein, oui, quand on entend l'orchestre, on se dit que non, la réduction pour piano, c'est pas facile. Mais en même temps, la partie de flûte est jouable, elle n'est pas... Alors là, on entre dans la musique de chambre, en quelque sorte, quand on travaille avec la flûte, le piano et quelquefois d'autres instruments, comme ça est arrivé, on en parlera peut-être. Le grand problème de la flûte, c'est qu'elle a un timbre légèrement strident tout de même. Mmh. Et son accommodement au piano n'est pas facile. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, en réalité, les pièces pour flûte et piano sont assez rares. Mmh. Passé l'âge baroque, où de surcroît c'était quand même flûte et clavecin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Flûte et clavecin et flûte et piano, ce n'est pas la même chose. On est obligé, quand on joue ça dans un appartement avec flûte et piano, on est obligé quand même d'adopter une sonorité modérée pour la flûte, de ne pas constamment faire entendre la flûte comme si le piano n'existait pas, ce qui, quand on est un peu loin, se produit très facilement. Et alors là, j'ai appris, je pense, dans le travail pour flûte et piano, avec en réalité des pianistes amateurs, hein, y compris ma future femme était pianiste, ah oui, à cette époque, oui. Mmh. Une des manières de lui faire la cour a été de jouer avec elle le prélude de l'après-midi d'un faune.
D'accord.
Oui, oui, absolument.
Et vous avez continué tout le temps?
Oui, ou... oui, on a tout le temps. Ensuite, on a continué. Là, elle-même, elle prenait des leçons de piano de façon très sérieuse. Elle a aussi progressé. On finit par venir à bout dans des conditions tout de même assez bonnes, des sonates de Bach, des choses de ce genre. Mmh. Et du prélude de l'après-midi d'un faune, qui pourtant était pour elle réellement difficile. Je crois que ce que j'ai appris dans cette musique de chambre, c'est là alors réellement le travail avec l'autre, en un sens, si je puis dire, intime. Enfin, on est là, deux, trois, quatre, il faut vraiment, on peut se regarder, c'est vraiment une communauté extrêmement soudée et particulière. Et puis j'ai appris aussi que justement, il ne faut pas tenter de devenir à tout prix le soliste du petit groupe, hein. Et c'est une tentation que on a de façon différenciée selon qu'on est dans les instruments autres que le piano ou le piano. Le piano, lui, a toujours une tendance à être un peu la totalité à lui tout seul.
Oui, il n'a pas besoin des autres.
Exactement,
en fait.
Il n'a pas besoin vraiment des autres. Et donc, il a besoin, lui, au contraire, de savoir ce que c'est que la modération de l'intervention pianistique et de laisser quand même les autres se déployer. Mais comme les autres, eux, et notamment la flûte, un timbre qui, par contre, l'emporte sur le timbre du piano, il faut apprendre aussi une modération. Alors, tout ça m'a fait que ce type de travail en sonate pour piano et flûte, très majoritairement, mais un peu plus tard, avec une amie violoniste, avec un ami qui jouait du hautbois, etc., a été un travail aussi de soumission de la musique à sa discipline collective, et par voie de conséquence, de travail très précis sur la sonorité. Voilà. Parce que dans la musique de chambre, la sonorité a quand même une importance décisive. Quand vous êtes dans l'orchestre, bon, il faut jouer aussi votre partie, mais enfin, vous n'allez pas, c'est pas vous qui allez bousculer l'orchestre. Tandis que là, le moindre déséquilibre sonore dans la musique de chambre est quand même mortel pour l'œuvre.
Quelque chose de très beau dans la musique de chambre, tel que vous nous en parlez, Alain Badiou, ou tout simplement dans le fait de jouer de la musique, c'est le terme, on ne l'a pas encore prononcé, je crois, dans cette émission, le terme d'amateur, moi, que j'aime beaucoup, parce que c'est évidemment, l'amateur est une figure centrale, en fait, du dispositif musical, jusque en plein milieu, finalement, du XXe siècle. C'est quelque chose qui a, malheureusement, un peu disparu aujourd'hui. Enfin, disparu, on continue parfois, mais ce n'est pas une pratique aussi constante, aussi fidèle qu'elle a pu l'être par le passé.
Oui, je le constate. Je le constate avec mes enfants, ouais, leurs habits, etc. C'est assez rare qu'on se lance dans des entreprises comme ça, de de regroupements amateurs pour travailler une pièce. Je pense que c'est très dommage. Et ça va de pair sans doute avec le fait que le spectacle et la professionnalisation ont progressé quand même beaucoup, d'un côté. Et de l'autre, je pense tout de même aussi que le caractère extraordinairement difficile de la production musicale contemporaine est un obstacle. Alors ça, je le dis sans vouloir du tout polémiquer avec la musique contemporaine, que j'aime beaucoup. Mais c'est un fait que on sent malgré tout que, y compris des gens comme Mozart ou Beethoven, qui écrivaient des choses difficiles aussi, mais tout de même, une bonne partie des gens qui avaient à le jouer, c'était des amateurs. Et ils en tenaient compte, qu'on le veuille ou non, ils en tenaient compte. Avec quelquefois l'idée que on allait introduire quand même des virtuosités complexes, bon, mais on tenait compte du fait que ça allait se jouer dans des salons avec un public d'amateurs. Aujourd'hui, les amateurs sont un peu des conservateurs, parce que le répertoire immédiat qui nous est transmis, nous ne pouvons pas le jouer. Il faut le dire, les amateurs ne peuvent pas. Aucun amateur ne peut jouer la sonatine pour flûte et piano de Boulez, c'est impossible. Ben, il faut un professionnel, et un professionnel aguerri même pour le faire. Et c'est un peu comme ça pour toute la musique contemporaine. Et donc, nous sommes obligés de nous replier sur un répertoire ancien. Et je pense que peut-être cette discordance temporelle nuit à l'existence même de la chose. Et nous sommes les amateurs, mais nous ne sommes pas les amateurs de la musique de notre temps. Nous sommes les amateurs d'une musique du passé. C'est tout de même dommage. Voilà.
Les premières mesures du quintet avec clarinette de Johannes Brahms, c'était Sharon Kam à la clarinette, le quatuor de Jérusalem pour cette version presque récente de cette œuvre magnifique que vous n'avez pas jouée. Alors, faut le signaler comme à la flûte, hein, à la Badiou, on aurait pu imaginer une forme de transcription. En revanche, ça rejoint peut-être la pratique amateur, une autre pratique qui est celle du mélomane, bien sûr, les deux se complétant avec cette idée de la musique de chambre qui fait en quelque sorte le lien entre les deux, la musique qu'on fait et celle qu'on écoute.
Oui, il est très rare pour un amateur d'arriver à jouer réellement dans un orchestre. J'ai eu la chance de le faire à un moment et j'en ai un grand souvenir, mais c'est très rare. Par contre, la musique de chambre reste à la portée de l'amateur. C'est une grande joie, surtout pour la flûte. Vous savez, alors si on était réduit au répertoire pour la flûte seule, alors là, on n'a vraiment pas grand-chose. On pourrait jouer indéfiniment la paire constituée de la partita de Bach et du syrinx de Debussy. Et ce serait à peu près tout. Donc c'est vraiment très peu. Donc on est aussi dans la nécessité pratiquement de la musique de chambre lorsque on est un flûtiste amateur. Et je l'ai pratiqué autant que je pouvais, véritablement.
Et pratiqué, mais aussi entendu, ce qu'on vient d'entendre là.
Alors, par ailleurs, ça m'a donné un grand goût pour la musique de chambre en général. Je pense qu'en effet, vous avez raison, les deux choses sont liées. La nécessité, en quelque sorte, technique de pratiquer la musique de chambre m'a introduit à cet immense, à ce gigantesque répertoire, qui est, en plus, me semble-t-il, avec le piano, bien sûr, mais dans une version un peu modifiée de celle que donne le piano, a toujours été le laboratoire, en réalité, de la musique occidentale. On sait très bien que le quatuor à cordes est un peu la matrice, comme ça, de l'invention musicale la plus profonde et la plus radicale. L'existence des quatre voix, c'est déjà l'orchestre en miniature, malgré tout. Et quand on entend ces œuvres, on sent qu'elles ont été aussi, avec beaucoup de pièces pour piano, mais elles ont été aussi les carnets d'invention des grands musiciens. Avec une prodigalité stupéfiante, malgré tout, quand on voit le système général des quatuors de Mozart, des quatuors de Haydn, pour ne rien dire évidemment des quatuors de Beethoven, on a là, je pense, une espèce de matière musicale, matière sonore, de forme d'organisation, d'invention, de tentatives aussi, qui ne seront peut-être pas poursuivies, et qui font de la musique de chambre quelque chose d'absolument passionnant. Absolument passionnant. Je l'écoute, je l'ai un peu pratiqué, et je l'écoute jusqu'à ses dimensions les plus contemporaines avec un grand intérêt et une grande satisfaction, vraiment. Ouais.
Vous me disiez hors micro tout à l'heure, pendant qu'on écoutait ce quintet, que justement la forme quintet vous plaît particulièrement, peut-être parce qu'en fait c'est le lien entre la musique de chambre d'un côté et puis l'orchestre qui n'est pas loin, le quintet permet ça.
Tout
aussi.
À fait, je pense que le quintet en général est une médiation entre la musique de chambre et l'orchestre parce que soit il ajoute en fait un soliste dont le timbre n'est pas le même dans le quintet que nous avons entendu. Évidemment, en un certain sens, c'est un concerto pour quatuor et clarinette, malgré tout. Et donc, quelque chose qui est orchestral par principe. Mais même quand ce n'est pas un timbre différent, je pense pour exemple, pour le quintet à deux violoncelles de Schubert, c'est très curieux. L'introduction d'un instrument supplémentaire donne une sorte d'épaisseur, de force, de solidité. Évidemment, dans le quintet en question, c'est pour ça que le travail des basses se fait entendre de façon beaucoup plus consistante que dans le quatuor ordinaire. Donc, suite de votre avis, il y a dans ces tentatives de quintet un peu la forme ultime de la musique de chambre, bien qu'il y ait de très beaux sextuors tout de même, y compris chez Brahms. Il y a aussi un beau sextuor. Enfin, le quintet, c'est un peu l'équilibre maximal de la musique de chambre en direction de l'orchestration. Et sous les deux formes, au fond, je dirais, la forme plus symphonique, au sens étymologique, c'est-à-dire l'harmonie d'ensemble, lorsqu'on ajoute soit un violon, soit un violoncelle, soit même un alto, ou alors la forme concertante quand on ajoute une flûte, une clarinette, voire même un cor, ou un instrument encore plus étrange pour former un quintet ou un sextuor.
Vous avez cité syrinx, on ne peut pas l'éviter, évidemment, vous l'avez joué comme tous les flûtistes, on ne compte plus le nombre de fois.
Je crois que c'est absolument nécessaire, on n'est pas flûtiste si on n'a pas joué syrinx, c'est le baptême.
Thank you.
Syrinx de Claude Debussy était joué, je le fais exprès, hein, une version pas française d'Alain Badiou, mais c'est un flûtiste, Wolfgang Schulz, que les amateurs connaissent bien, puisqu'il était flûtiste du Philharmonique de Vienne, pas n'importe qui, avec sonorité chaude, ample, bien, enfin plus germanique, on va dire, que française par certains côtés. C'est l'occasion, presque au moment de refermer cette émission, de dire quelques mots aussi de Claude Debussy. La semaine prochaine, nous parlerons avec vous d'opéra. Il se trouve que l'émission sur l'opéra, surtout sur l'opéra italien, il y a beaucoup de choses à mettre dedans. J'ai souhaité déplacer l'évocation de Péléas et Mélisande à aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé de Claude Debussy, bien sûr, et que Péléas se trouve être, je crois, peut-être pas votre opéra préféré, mais enfin un point dans votre vie de mélomane important.
Ah, c'est un de mes opéras préférés, je le revendiquerai. Bon, je suis un wagnérien d'origine, oui, et de circonstances, mais enfin je trouve que Péléas reste un des grands chefs-d'œuvre, et un chef-d'œuvre de surcroît... En un certain sens, sans descendance véritable, sans postérité significative. C'est un peu un opéra isolé. On peut trouver du wagnérisme dans beaucoup de productions postérieures à Wagner. Par contre, ce qui a été inventé et mis en évidence dans Péléas a été un peu imité, mais en fait, ça n'a pas donné grand-chose, finalement. C'est un peu un apax, en fait. C'est un peu quelque chose de solitaire. La rencontre entre Maeterlinck et Debussy y est quand même pour beaucoup. C'est-à-dire, une fois de plus, on constate que le livret, ça compte tout de même beaucoup dans l'opéra. Et la pièce de Maeterlinck, on dirait quand on l'entend qu'elle avait été écrite pour Debussy. Enfin, c'était vraiment un livret au sens, ce qui n'était pas le cas, mais on a ce sentiment. Et je l'ai écouté très souvent dans quantité de versions. Je trouve que le traitement scénique de Péléas et Mélisande n'est pas facile, en réalité. C'est-à-dire qu'on peut osciller entre des tentatives d'abstraction qui ne réussissent pas vraiment, et quelque chose de trop présent. C'est cet amour qui existe sans exister, ce personnage, Mélisande, qui sort d'on ne sait où et qui disparaît dans la nuit de la mort, ce Péléas qui transite et qui hésite entre la déclaration d'amour très, très forte et sublime qu'il va faire à la fin, et une espèce de jeu de séduction extrêmement labyrinthique, malgré tout. Et puis le jaloux. La seule chose absolument classique de Péléas, c'est le trio du baryton, du ténor et de la soprano, malgré tout. C'était une chose que, avec son humour sarcastique, les critiques anglais avaient discerné. Résumant l'opéra entre un baryton qui essaie désespérément de pas voir sa femme enlevée par un ténor. Voilà. Et que ça, c'était le triangle constitutif de l'opéra. Malgré tout, on le retrouve chez Debussy. Mais à part ça, tout le reste est quand même une originalité extraordinaire.
Ouais. La prosodie est originale, la musique est déchirante aussi. C'est quels aspects, vous, on sait, parce que vous êtes entre la poésie, vous nous l'avez raconté déjà, et la musique, et sur ce lien miraculeux entre les deux, c'est peut-être ça que réussit aussi Péléas et Mélisande.
Ah ben absolument, c'est ce que je disais. On dirait que ce texte a été fait pour cette musique. Et il faut reconnaître que c'est le travail et la position de Debussy sur la langue française aussi. On en a déjà parlé à propos de la mélodie, mais là aussi, c'est-à-dire l'idée est que si chanté que puisse être le texte, il doit demeurer un texte. On sent que c'est son intention et son vœu. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas que ça soit réduit à des choix entre airs, récitatifs, etc. Il doit y avoir une espèce de façon de parler, entièrement chantée, si je puis dire, mais qui néanmoins demeure une parole. Et il y est arrivé. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Quand on entend Péléas, on entend quelque chose dont la musique est subtile, sublime, etc. Mais on entend à l'intérieur même de cette musique le déroulement d'une pièce de théâtre véritable et d'une poétique véritable. Et ça, je pense que c'est ce qui en fait un chef-d'œuvre, tout de même.
Difficile de choisir une version, Alain Badiou, de Péléas et Mélisande. Hein, pourquoi ?
Écoutez, j'ai l'impression que Debussy a tout de même multiplié les difficultés, à commencer par le rôle de Péléas, parce que, au fond, c'est ni exactement un ténor, ça c'est sûr, mais ni exactement un baryton non plus, hein. Et en particulier dans la scène finale, il y a des aigus qui sont hors limite du point de vue d'un baryton ordinaire. Et c'est d'autre part un opéra qui réclame un mode de présence sur la scène particulièrement complexe. Parce que il ne faut ni trop jouer, ni être trop en retrait. Enfin, c'est très difficile. Il y a une espèce de côté un peu fantomatique de tout ce qui se passe là. Au point que dans une mise en scène anglaise, je crois, tout est présenté comme étant un rêve de Golo. Une mise en scène tout à fait remarquable, d'ailleurs, qui se passe uniquement à l'intérieur d'un salon anglais. Mmh. Et dès le début, on voit Golo en train de dormir et on comprend que tout ce qui va être évoqué sera en fait un cauchemar, en réalité, de Golo. Très belle mise en scène, d'ailleurs, très, très cohérente à sa manière, mais qui indique la difficulté extrême qu'il y a à jouer cela. Et le chant lui-même est un chant qui est à la lisière d'un récitatif de type nouveau, qui est un espèce de Sprechgesang français, qui n'a pas non plus été vraiment imité, en fait.
Regardez ailleurs. Et tu m'as fait ailleurs.
C'était Frederike Fronstad et Richard Stilwell qu'on entendait ici en Mélisande et Péléas de l'opéra de Claude Debussy dirigé par Herbert von Karajan en 1978, l'épisode qui suit la déclaration d'amour avant la catastrophe finale. Merci à Nelly Portal, Philippe Petit et Delphine Baudet. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Alain Badiou pour ce qui sera la suite de notre grande série d'été, l'opéra mais sans Wagner.
À réécouter sur francemusique.fr.